ça gagne à être connu.
OK. Il est 17h08 à Boulevard dans le retour. Avant d'aller se demander qu'est-ce que Donald Trump fait en Chine avec son équipe d'étoiles, regardons sur les routes comment ça se passe présentement. Audrey.
Ça va vraiment pas bien. J'aimerais ça vous dire que ça s'améliore, mais honnêtement, c'est très, 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 très lourd sur le réseau routier. Si vous êtes sur la capitale Est, ça se passe entre Henri IV et Laurentienne. Ouest, c'est entre Henri Bourassa et Laurentienne. Robert Bourassa, direction Nord. Bon ralentissement à prévoir entre Charest et la capitale. D'ailleurs, Charest, direction Est, c'est au ralenti, je vous dirais, un peu à la hauteur d'Henri IV, dans le coin aussi de Robert Bourassa. Henri IV, sud de la capitale, au pont. C'est encore au ralenti, donc super lourd. Si vous êtes sur Duplessis-Sud, de Charest au Pont-la-Porte, ça bouge toujours pas. Même chose pour ce qui est de la base, devant la base militaire, route de la Bravo dans les deux directions à Shannon. On est toujours au ralenti dans les deux directions. Route de Fossambeau, entre de la Jacques-Cartier et des Érables, c'est encore au ralenti. Puis c'est la 20 direction ouest, sinon, où c'est super lourd entre la route du président Kennedy et Taniata. Sans même avoir un ralentissement direction est quand vous sortez des ponts puis vous allez chercher, mettons, la 20 entre les ponts puis Taniata, mettons, ralentissement inhabituel de ce côté-là. S'il y a autre chose, 88-971-1021, texto.
Le président américain Donald Trump qui est dans une visite d'État de 3 jours du côté de la Chine. C'est la première fois depuis...
Sa dernière visite en 2017.
Donald Trump ouais. En 2017, c'est une bonne réponse. Il n'est pas allé tout seul. D'ailleurs, la dernière fois qu'on a vu une équipe d'étoiles de même, je ne suis pas mal sûr que c'était le basket aux Olympiques. Là. Il y a sûrement des messages à passer, il y a sûrement des objectifs, il y a sûrement des choses à comprendre aussi. Et c'est pourquoi on va aller rejoindre Éric Sauvé, président d'Innovigo, firme de consultation en renseignement sécurité et défense. Salut Éric, comment ça va?
Ça va bien toi?
Oui, ça va bien. Pourquoi Trump a décidé d'aller en Chine à ce moment-là précisément?
Première des choses, c'est que Trump devait y aller il y a quelques semaines, mais il y a eu la guerre en Iran, comme on sait,
oui.
Et il a dû repousser la date. Il avait choisi la date d'aujourd'hui. Il ne pouvait pas repousser une deuxième fois parce que ça aurait mal paru. Donc, il est allé avec ce que lui appelle une équipe d'étoiles, donc ses amis multimilliardaires.
Ouais.
Elon Musk est de retour dans le bateau Trump,
ben oui.
après les chicanes incroyables qu'ils ont eues l'année passée. Tim Cook de Apple, et celui qui me fait le plus rire, c'est le président de Nvidia. Lui, il avait été annoncé, il n'était pas là, ils l'ont ramassé littéralement en Alaska
okay.
À la dernière minute, pour l'amener en Chine parce qu'il y avait comme une controverse. Fait que ces gens-là, supposément, sont là pour faire avancer les intérêts américains, mais je pense que vous me savez plus cynique que ça. Ils veulent faire avancer leur business en Chine.
Hey, d'ailleurs, Éric, je comprends pas parce que, tu sais, mettons, quand le Canada et la Chine ont annoncé certaines ententes, certains partenariats, ça a été crucifié par Trump sur la place publique puis que ça avait donc ben pas de bon sens. Moi, ben franchement, je comprends pas. Le narratif, là.
C'est certainement deux poids, deux mesures. Ce qui arrive, c'est que les États-Unis, c'est la plus grande puissance mondiale économique et la Chine est la deuxième puissance. Donc, Carney, quand il a vu qu'il y avait des problèmes à traiter avec Donald Trump et l'accord de libre-échange, s'est tourné vers la Chine. Ça ne l'a pas plu à Trump, avec raison, parce que c'est lui le numéro un, mais c'est normal qu'on diversifie oui. Notre économie. Lui, il fait la même chose. Mais là, ce qui est comique, justement, c'est que c'est vraiment des multimilliardaires, c'est vraiment son monde à lui.
Mm-hmm.
Il dit qu'il fait avancer les intérêts des États-Unis, mais ces gens-là sont là pour deux choses, pour leurs usines et pour le marché chinois. Mm-hmm. Le 1 milliard de consommateurs et des usines qui marchent à plein, des usines à coût de 100 millions, 200 millions dans le cas de Musk. Fait qu'ils veulent agrandir leur empreinte sur le terrain, dans le fond.
Qu'est-ce que Trump veut ramener de cette visite-là ou qu'est-ce qu'il veut faire sortir de cette visite-là?
Il y a beaucoup de visuels derrière ça. Hein. Il a visité des endroits célèbres comme le Temple du Ciel qu'aucun président avait visité depuis 1975.
Okay.
Donc, toute la symbolique derrière la visite est importante. Ils ont eu des discussions à porte close pendant 2 heures. Il y a eu des messages aussi qui ont été passés. Entre autres, Taïwan. Le président chinois, première des choses qu'il a dit, un message diplomatique assez clair, ça pourrait mal tourner entre nous deux si vous ne gérez pas Taïwan comme il faut.
Parce que Taïwan est indépendant, la Chine refuse, puis les États-Unis voulaient s'en mêler, c'est tout ça?
Oui, Taïwan est indépendant depuis qu'il y a eu la guerre entre Mao Tse-tung et Chiang Kai-shek en 1949. c'est la deuxième république de Chine, si vous voulez, Taïwan, et ça n'a jamais été reconnu par Pékin. Le One China Policy, la politique de une Chine, c'est une politique qui est extrêmement importante pour eux. Les Chinois veulent voir revenir Taïwan sous le giron. Alors, la politique américaine, c'est de ne pas se prononcer en faveur de l'indépendance de Taïwan, ni se prononcer en faveur de Pékin. Donc, c'est un équilibre, c'est un jeu d'équilibre. On sait que Trump n'est pas très bon dans les jeux d'équilibre et dans la finesse.
Non.
Alors, la crainte des Taïwanais, c'est qu'ils disent une chose qui serait mal interprétée par Pékin, qui pourra en profiter ensuite pour aller essayer de tenter de saisir Taïwan.
Je ne sais pas si c'est moi qui a un prisme qui déforme la réalité, mais j'ai l'impression que Trump trippe et vénère les leaders des endroits où il y a moins de démocratie qu'aux États-Unis. Puis j'ai l'impression que la Chine, la relation avec le boss de l'autre bord, c'est un petit peu la même chose. Hein. Il a de l'air fasciné. Là.
Tout à fait. Trump est beaucoup plus à l'aise avec les hommes forts, avec les autocrates, les dictatures. Mm. On l'a vu aussi dans les derniers sommets du G7. Le sommet qu'il y a eu à Kananaskis l'année passée, ouais, et celui qu'il y avait eu à Charlevoix, je pense, en 2018. Les deux fois, Trump a quitté avant la fin.
C'est vrai, il est juste venu faire acte de présence, puis il a foutu le camp.
Il n'est pas à l'aise avec les démocraties européennes, n'est pas à l'aise avec le Canada, se sent très bien et en plus va redorer son image avec un dictateur. C'est quand même assez incroyable que le leader du monde libre, parce que c'est encore le nom qu'on donne au président américain, va redorer son image en allant à Pékin et en invitant Poutine en Alaska la dernière fois, quand ils ont déroulé le tapis rouge. Devant le dictateur qui est en train de faire saigner l'Ukraine.
Quand on est le grand boss de la Chine puis qu'on reçoit Donald Trump, c'est quoi la stratégie pour bien paraître? Juste le laisser parler tout seul?
Oui, c'est une bonne question. En fait, ce que la Chine essaie de faire, c'est de se montrer comme étant égal aux États-Unis. Mm. Donc, fait intéressant quand on parle de visuel, le président chinois n'est pas allé à l'aéroport accueillir Trump. Il a envoyé son vice-président.
Oh.
Ça, c'est pas parce qu'il y avait un conflit d'horaire, on s'entend.
Non, OK, c'est un message que tu passes
c'est
en partant.
C'est un prestige.
Là.
Ouais.
Exactement, c'est un message. J'envoie mon numéro 2 à l'aéroport. Donc, il n'y a pas eu de tapis rouge. Ben, il y a eu un tapis rouge, mais il n'y a pas eu Xi Jinping à l'autre bout du tapis rouge. C'était le vice-président. Donc, c'est un message qui est passé. Xi Jinping veut aussi passer un gros message à sa population comme quoi il est plus sérieux et plus solide que Trump. On s'entend que c'est quand même un message assez facile à passer.
Ouais.
Quand on sait que l'autre dit un peu n'importe quoi, va dans tous les sens, et Xi Jinping se présente comme la stabilité qui va être là pendant encore des décennies.
T'as fait mention de Taïwan. C'est un sujet qui est hyper sensible. Et
que l'Iran aussi qui est hyper sensible.
Ben oui, mais du côté de la Chine, on a été très clair sur ce que ça pouvait impliquer. Comment Donald Trump peut réagir quand la Chine est très, très, très agressive dans sa position? Il y avait quasiment
c'est
l'air
très
de...
tranché, là, ouais.
Genre, le message était « on est prêt à partir la guerre là-dessus ou à peu près, là ».
Le message sur Taïwan venant de Pékin n'a jamais changé depuis 1949.
Mm-hmm.
C'est la politique de une Chine. Dans les années 70, les Américains ont réussi à, dans le fond, créer une détente, à faire en sorte qu'on puisse discuter avec Taïwan, puisse faire des affaires avec Taïwan. Mais aller plus loin que ça, ça serait un affront à Pékin. Et vous savez, en termes diplomatiques, dire ça pourrait aller très mal entre nos deux pays, c'est quand même assez fort. Ça veut dire... on est prêt à se battre pour Taïwan. Quand tu parles de l'Iran, ce qui est intéressant, c'est que Trump aurait voulu en parler, mais ça a été fermé du côté chinois dès le début. Ils n'ont pas vraiment réussi à passer aucun message. La Maison-Blanche a dit qu'aucun des deux pays ne voulait que l'Iran ait l'arme nucléaire, mais ça, c'était déjà une chose qui était déjà atteinte. Mais ils n'ont pas vraiment réussi à parler de réouverture du détroit, selon ce qu'on en comprend.
Éric Sauvé, très intéressant comme toujours. Merci infiniment.
Merci, à la prochaine.
Salut, à la prochaine. Éric Sauvé, président d'Innovigo, firme de consultation en renseignement, sécurité et défense. Dans le fond, en termes de hockey, la meilleure façon de bien paraître contre Donald Trump, c'est de jouer à trappe. C'est de le laisser se planter, c'est de le laisser parler. Puis j'ai l'impression que la stratégie de le recevoir, c'est que tout le monde paraît mieux à côté de lui. Puis j'ai de l'air de varger dessus, mais en même temps, je pense qu'on est tous rendus à la même place.
Puis, tu sais, pour avoir regardé beaucoup, beaucoup d'images, puis avoir écouté beaucoup de reportages sur la présence de Trump en Chine, lui, quand il y a un décorum, il l'aime beaucoup. Ça, ouais. On l'a vu quand il a reçu le roi Charles III ou quand il a été reçu. Lui, le côté très clinquant.
Le monde qui flash
rigide.
Le jewel,
ouais,
là, il aime ça.
Lui, ouais. Ça l'épate. Il semble y avoir un respect, une fascination pour ça.
C'est pas pour rien qu'il est en train de tout déviarger la Maison-Blanche non plus avec sa salle de bal. Ben oui,
non,
ben oui.
C'est de la vraie dorure, là, et pas cheap, mais ça a l'air cheap.
Hey, parlant de dorure cheap, hey, je voulais en parler à Eric Tabarnouche, puis j'ai oublié. Tu sais, les fameux iPhone Trump, là.
Oui, que finalement, ils n'existeront pas, là.
Ben là, ça a de l'air qu'ils commencent à les envoyer cette semaine.
Oh.
Puis moi, je suis ça, ces réseaux sociaux, puis je trouve ça drôle. Mais tu sais que ça a tout été fait en Chine, ça?
Mais oui.
Il y a quand même quelque chose de profondément drôle tout là-dedans, là.
Donc, tu sais, Trump est obligé de suivre des discours quand il va en Chine. Il est obligé de lire ses papiers. Il ne peut pas improviser, il ne peut pas rien faire parce que s'il se met les pieds dans les plats, il peut se mettre dans la merde. Pis... Et c'est fascinant de le voir coucouche panier.
Ouais, puis en même temps, je trouve que... Comment est-ce qu'il s'appelle? Je veux pas scraper son nom. Là,
Xi Jinping.
Xi Jinping, là. Quand il a parlé de Taïwan, c'était juste pour essayer... de faire perdre le contrôle à Donald Trump pour qu'il dise une connerie. Là.
Probablement.
Ben, ça ressemblait à ça pas mal. Oui, oui. Puis, je sais pas à quel point le voyage n'est pas fini, mais Trump, habituellement, il n'est pas capable de passer 24 heures sans dire une connerie.
Oui, mais là, il lit ses papiers beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est-tu hier ou avant-hier là, que je vous ai fait entendre, juste avant d'entrer dans l'hélicoptère, il parle à des journalistes, là, puis « You are a dumb person. You are not very smart. »
Idiote.
C'est terrible. Merci à Eric. Toujours, toujours super intéressant. Il est 17h20. On fait une courte pause, on revient. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour.
Gravel dans le retour. Un show d'extrême depuis des années. D'extrême centre.
Ouais, la pluie est repartie de plus belle sur Québec. J'imagine qu'il commence à y avoir du trafic dans le secteur du centre Vidéotron. C'est là que ça se passe ce soir. Ça va presque être plein. Je vais rafraîchir ma page juste pour voir s'il y a des nouvelles sections qui sont disparues. Ben oui, ça continue d'acheter des billets lentement, mais sûrement. On est rendu dans les hauteurs du centre Vidéotron. Ça va être un bon 15 000 francs ce soir, vraisemblablement. Et d'ailleurs, on va aller rejoindre Max Larouche dans les prochaines secondes, qui, lui, est déjà sur place, mais d'abord dans la circulation. Audrey?
Je dirais que ça ralentit pas juste dans le coin du centre Vidéotron, ça ralentit pas mal la grandeur du réseau. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais ça ne se résorbe pas si vous êtes sur la capitale Est en ce moment. Entre Henri IV et Laurentienne, toujours au ralenti. Ouest, entre Henri Bourassa et Laurentienne. Robert Bourassa, direction nord, ça se passe entre Charest et la capitale. Si vous êtes sur Henri IV sud, de la capitale au pont, c'est toujours aussi congestionné. Direction nord, ça se passe vraiment hauteur de la capitale. Duplessis sud, ça se passe entre Charest et le pont La Porte. Si vous êtes dans le coin de Shannon, devant la base militaire, il y a encore un peu de ralentissement, quoique ça va mieux. Là. Si vous êtes sur route de Fossambeau, entre Des Érables et de la Jacques-Cartier, toujours aussi compliqué aussi. Sur la rive sud, 20 ouest, entre Monseigneur Bourget et Taniata, c'est un foutu bordel. Si vous sortez des ponts, vous êtes sur la 20 direction est, entre les ponts et Taniata, ça se résorbe pas non plus. Et il y a des problèmes sur Guillaume Couture dans les deux directions hauteur Taniata également. C'est autre chose, 88-971-102 texto.
Il doit sentir le chien mouillé, mais il doit pas être malheureux pour autant. Max Larouche en direct du centre Vidéotron, comment ça va, man?
Ça va, je suis pas en direct de là encore. Je suis en route, là, je suis sous la pluie. Mais moi, je suis un gars heureux sous la pluie.
Là, t'es. Écoute, c'est une bonne run, ça, à partir de chez vous.
Je fais tout le temps à pied, c'est un genre de 40 minutes. Mais là, en plus, il faut que je fasse un petit détour parce qu'on va se rejoindre ma gang de chums. Je suis un autre chum qui habite pas trop loin. Puis on va partir de là pour sauver le parking comme des étudiants cheap.
Et probablement prendre un petit peu d'avance sur la consommation de boissons.
Non, je bois plus la semaine, Denis. C'est un nouvel homme que je suis. Je bois ma petite tisane avant de me coucher, en revenant de ma petite course en alternance. Vraiment, je me reconnais plus.
Tabarnouche, pour l'amour du CH et aussi pour l'amour du CH.
Moi, il y a trois choses. Il y a trois choses, Denis. Moi, c'est l'amour du hockey, l'amour du CH, puis l'amour du hockey aussi.
Max, ce soir, comment tu vois ça, toi? Moi, j'ai l'impression qu'on recommence à zéro ce soir, puis c'est bon pour une équipe, c'est bon pour l'autre. C'est une nouvelle série, là.
Pas mal à la même place, aussi à partir du moment où c'est un nouveau gardien de l'autre bord, Luukkonen, qui a connu un gros premier match. Pour le Canadien, oui, c'est un peu de repartir à zéro parce que ce gardien-là, on l'a testé au dernier match, puis Colin, ça n'a pas viré de notre bord, puis ça, c'est une affaire, puis oui, on l'a testé. Dernier match, Buffalo a tellement bloqué de tir. Avec les petites recherches rapides que j'ai faites, là, c'est le match depuis le début des séries où une équipe a bloqué le plus de tirs, c'est 27 de mémoire. Là. Mm. Ça se garochait devant les shots. Fait que pour le Canadien, ben, c'est d'essayer de trouver des nouvelles lignes de tir. Puis, parce qu'à partir du moment où l'équipe adverse bloque autant de tirs, c'est un méchant coup de main au goaler. Là, parce que sinon, il aurait reçu 50 shots, Loukkonen. Fait que non, j'ai hâte de voir. Puis en même temps, ben, pour Dobesh, c'est de continuer sur sa lancée. Ouais. Je m'attends à un match offensif ce soir, par exemple. À un moment donné, c'est pas vrai que les deux goalers peuvent toujours rester aussi bons. Là. Moi, je dis un 5-4 Canadien.
Oh, tabarnouche, OK. Ça débloque ce soir. Ben, c'est peut-être la beauté du fait qu'on recommence à zéro ce soir. Puis je sais que ça marche pas de même, là, le mental d'un joueur de hockey, d'un athlète ou même d'un humain en général. Mais tu sais, c'est de dire, mettons que tu joues sur le premier trio, ben tout ce qu'on n'a pas eu comme succès depuis le début des séries, ça compte pas parce qu'à soir, on recommence en neuf. Dobesh a eu de grandes performances, mais sa plus grande, faut qu'il y a goal à soir parce que tout ce qu'on a fait comme chemin à date, ça compte pas. C'est 2-2, c'est l'équivalent de dire c'est 0-0. C'est une nouvelle série.
Puis en même temps, il y a des gars pour qui il faut pas remettre le compteur à zéro. Caulfield qui sort de deux matchs de suite.
Il commence à jouer, là.
Lui, remettez pas ça à zéro, s'il vous plaît. Lui, on continue Ticole, le petit Cole Caulfield.
Le petit Cole Caulfield, oui.
Mais tu sais, pour un Ivan Demidov, le dernier match, on essaye de l'oublier parce que je trouve les gens un peu durs envers Demidov. Oui, le dernier match a été pourri, là, ça, oui. Je ne dirais jamais là-dessus. Mais en général, depuis le début des séries, Colin, ça rentre pas, mais moi, je trouve qu'il joue bien et qu'il y a des beaux flashs.
Je suis d'accord avec toi. Si tu fais exception du dernier match, Demidov a de très bonnes séries.
En général, Demidov joue beaucoup mieux que Slavkovski. Oui. Moi, ce soir, en passant, je mets un petit 2 sur Demidov qui en score 1. Ce serait son premier en carrière en série. Je pense qu'il est dû. Puis je pense que le dernier match plus difficile, on va rapidement l'oublier pour Demidov. Maintenant, j'espère que ça va être un peu la même affaire pour le premier trio. Qui, oui, a produit un peu de but dans les derniers matchs, mais tout le temps en power play. À un moment donné, il va falloir que ce trio-là marche à 5 contre 5 parce que sinon, oublie ça, le Canadien n'y arrivera pas.
Là, ce soir, le dernier match du Canadien, ça a été une défaite. Donc, ce soir, est-ce qu'il y a des changements? D'après toi, est-ce que Martin Saint-Louis procède à des modifications de trio? Y a-t-il du monde qui sort ou qui rentre dans le line-up?
Les trios, on ne le saura pas avant le début du match.
Évidemment.
D'après moi, on va voir. Ben, en même temps, je dis que d'après moi, on va voir des changements. Tu as dominé le dernier match.
Ah, puis Saint-Louis avait l'air satisfait de ses joueurs aussi.
Oui,
là.
Oui. T'as pas été opportuniste, mais dans une autre game, dans des circonstances différentes, puis un match semblable, peut-être que t'en scores 8 début. Là. Fait que, tu sais, au niveau du power play, là, j'ai hâte de voir, parce que l'autre fois, j'expliquais que changer un power play en plein match, des fois, c'est pas l'idéal. Les gars sont habitués d'être ensemble, d'avoir leur rôle bien défini, mais là, t'as eu du temps. Là. Fait que t'as eu du temps pour les prévoir, ces changements-là, sur l'avantage numérique qui n'a pas marché partout au dernier match. Et qu'est-ce que c'est le power play? Ben, on va enlever un Demidov de la première vague ou un Slavkovski de la première vague pour rentrer, je sais pas, un New Hook, un Anderson pour bouger un peu les choses. Peut-être. À 5 contre 5, je sais pas. Puis en défense, là, ce sera intéressant parce que ce matin, parmi les joueurs qui patinaient, il n'y avait pas ni Struble, ni Jack Eye. Puis les joueurs qui patinent le matin, c'est ceux qui ne jouent pas.
OK. Fait,
peut-être que les deux vont faire le warm-up et qu'on va savoir vraiment juste au début de la game c'est lequel des deux dans le line-up. Mais c'est dans la game, Jacquet a joué 4 minutes. Là. C'est pas ça qui va changer
non,
la game.
Non. Hey, je te défends de choisir les gardiens de but des Sabres ou du Canadien, mais je te demande de chaque bord de me dire qui peut être ce soir un game changer qui gagne la game à lui tout seul ou à peu près.
C'est drôle parce que chez le Canadien, les gars qui gagnent la game à eux seuls. Tu as eu Slavkovski le premier match contre le Lightning. Et ça, en général, mettons un Watson, on peut-tu dire qu'il a gagné des games à lui tout seul? Mm. Je vais te dire Demidov. Je pense que Demidov en sort une très grosse ce soir.
Ça serait le fun.
Puis du côté du côté des Sabres, je vais vraiment, mais vraiment y aller que le soit facile. Tage Thompson, c'est pas compliqué. Plutôt cette année, il en a gagné une à lui tout seul contre le CH. Puis je pense que c'est lui le plus susceptible. C'est pas compliqué. En fait, dans les deux équipes, là, le gars qui est le plus capable de gagner une game à lui tout seul, ben c'est vraiment Tage Thompson.
C'est pas le seul match à l'affiche ce soir dans les séries, hein?
Non, en effet, c'est le sixième match entre les Golden Knights et les Ducks.
Oui.
J'ai hâte de voir si. Parce que moi, j'ai mis Ducks en 7 dans cette série-là, parce que j'aime pas les Golden Knights, pour le rappeler une fois de plus.
Vegas mène 3-2 au moment où on se parle.
Exact. Fait que ma prédiction est encore bien en vie. Tu sais, les Golden Knights, c'est tellement une équipe qui a fait la run. J'ai peur pour les Ducks qui, ce soir, vont devoir... Les Ducks sont à domicile. Peut-être que ça pourrait changer quelque chose dans ce match-là. Mais j'ai comme un mauvais feeling. Je pense que les Knights vont accéder à la finale de l'Ouest. Aller déjà rejoindre la Avalanche du Colorado qui est passée en finale de l'Ouest hier.
Max, d'ailleurs, t'as fouillé dans les statistiques de l'Avalanche, puis t'as vu des chiffres qui t'ont fait réagir de la façon suivante. Mais, je tombe à terre!
Denis, combien de joueurs de l'Avalanche ont au moins un but, tu penses, depuis le début des séries cette année?
Bon, c'est sûr qu'en posant la question, j'imagine qu'il y a une pogne. Y en a-tu une quinzaine?
C'est 17.
C'est pas
compliqué. Il y a un joueur régulier en ce moment qui a joué tous les matchs chez l'Avalanche qui n'a pas de but, c'est le défenseur Brent Burns. À part ça, là, tout le monde a au moins un but. Puis après ça, ben, déjà, ce stat-là m'a beaucoup impressionné. Puis en passant, il y a les Flyers qui en ont 16, mine de rien.
Ça
aussi, 15 ou 16, en fait. Ça aussi, c'est impressionnant. Mais si on vient à l'Avalanche, là, il y a 6 gars différents qui ont un but gagnant depuis le début des séries. Il y a un seul gars qui a 2 buts gagnants, c'est Nicolas Roy. Fait que non seulement tous tes joueurs scorent, ben souvent c'est des joueurs différents qui vont scorer les gros buts importants. Puis de mémoire, MacKinnon n'en a même pas un but gagnant là, depuis le début des séries. Tu as des joueurs de profondeur. Fait que, tu sais, pour gagner la coupe, oui, ça te prend des vedettes, là, mais je trouve que la domination de l'Avalanche en ce moment... c'est vraiment aussi grâce à la profondeur.
Hey Max, un peu plus tôt aujourd'hui, tu m'as envoyé le line-up des éclopés des Flyers de Philadelphie. On peut dire qu'ils ont essayé et qu'ils ont travaillé fort contre les Hurricanes là, à la lueur du bilan médical.
Ah, puis tu sais, il y en a là-dedans qui n'ont pas joué face aux Canes, mais il y en a qui ont joué toutes les games des Flyers. Puis ça, c'est des côtes fracturées. Puis là, j'ai pas la liste sous les yeux, mais il y en a qui avaient un pied cassé, le nez cassé. Les Flyers étaient maganés. Tu sais, quand on dit que les joueurs de hockey sont built different, là, bâti différemment, là, puis que c'est des guerriers, ça n'a pas de bon sens. J'ai vu ce liste-là. Pour vrai, la première fois que je l'ai vu, c'était comme un screenshot que j'ai vu passer d'un compte bâtard. J'étais sûr que c'était fake news. Puis après ça, ben, j'ai vu que c'était un vrai communiqué des Flyers qui nommait tous les blessés avec tout. C'est quoi les blessures? Puis tu dis, tabarouette, tu vois que ces gars-là ont joué aussi magané. C'est à peu près à moitié du club. Là.
Max, on fait des changements dans les bureaux à Vancouver. Pourtant, c'est sa glace que ça marche pas, là?
Ouais, ben, tu sais, on avait déjà congédié le directeur général Patrick Alvin dans les dernières semaines. Puis, c'est le pire. Oui, on fait des changements, mais c'est le même monde qui reste. Ça, c'est l'assistant directeur général qui devient DG. Puis, c'est les frères Sedin qui deviennent co-présidents aux opérations hockey, alors qu'ils étaient plus au développement. Fait que les frères Sedin qui sont comme promus à un rôle supérieur. Mais, tu sais, ça reste quand même le même monde d'un bureau avec Jim Rutherford qui va être le président qui va surveiller tout ça comme genre de superviseur, là. Mais, fait que oui, on apporte des changements, mais en même temps, on change pas rien sur la glace, puis ça reste le même monde d'un bureau. Fait que j'ai hâte de voir la job que ce monde-là va faire parce qu'il y en a de la job.
Le coach des Oilers a perdu sa job. Es-tu surpris?
Ben, je trouve tellement ça ingrat. Je veux dire, le gars a été coach 3 saisons. Okay, avec les Oilers, 2 saisons, il est allé en finale de la Coupe, il a perdu. Puis 7 saisons. Puis il est mis dehors. La job de coach est tellement ingrate.
C'est terrible. Crosby va porter le C au championnat du monde de hockey. Ça non plus, c'est pas une surprise à partir du moment où
non,
il décide d'aller jouer.
Il ne portera pas le C, Denis.
Hein? Crosby ne portera pas le C. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fait une erreur dans mes notes, si c'est dans la transcription qu'on s'est perdu.
Non, c'est juste moi qui lis pas comme faux.
Bon.
T'as pris pour acquis qu'il allait porter le C, je pense.
Oui, absolument.
Ben, c'est un peu ça l'affaire. C'est que c'est Macklin Celebrini qui va porter le C de capitaine pour l'équipe Canada, alors que Crosby va être dans le line-up. Puis ce qu'on peut lire, c'est que c'est une décision qui a été prise en équipe. Puis, mais tu sais, en même temps, on commence à le connaître, Sidney Crosby, là. Je suis persuadé que Macklin Celebrini a dit « Hey, Sid, c'est moi qui étais supposé avoir le C.
Ouais. »
Tiens, le C de capitaine. Puis Crosby doit avoir dit « Il n'y a aucune maudite chance, le jeune, que je te vole le C. »
Je l'imagine très bien, effectivement, dire ça.
Il n'y a aucune chance que Crosby aurait accepté le C de capitaine. C'est ça, on le connaît. Fait que, ben content, ça va être beau à voir le jeune Celebrini qui va porter le C de capitaine. Puis à côté de lui, ben, tu vas avoir Crosby comme assistant pour le supporter. C'est un peu une passation de flambeau, comme on dirait à Montréal.
Fait que, exactement comme je te disais, Crosby, donc, ne portera pas le C au championnat mondial de hockey.
Exact, tu m'enlèves les mots de la bouche.
Hey, bon show ce soir, amuse-toi.
Oui, on va faire aller les serviettes. Il va-t-il avoir des serviettes, tu penses?
Écoute,
on n'a pas vu.
À partir du moment où ce qu'on va flasher le centre Vidéotron à TV, puis j'imagine qu'on va le faire du côté de TVA Sport, j'espère qu'on a mis des serviettes.
Hey Denis, pour faire des serviettes, c'est long en maudit, là. On a fait ça sur une bine.
Ouais. OK, ben serviettes ou pas, on va avoir du fun.
T'en aurais voulu une pour t'essuyer, hein, Maxime?
Oui, puis là, je suis rendu en avant chez mon ami, mais je continue de tourner dehors. Je sais pas pourquoi je rentre pas, là. Il continue de me mouiller dessus. Tant qu'à être mouillé, on va être mouillé à fond.
Bon, ben lâche pas, puis bonne humidité.
Oui, go Habs, go Doberge, go Demidov.
Go Habs, go. Salut Max. Donc, ce soir, vous serez nombreux du côté du centre Vidéotron. On est vraiment regardés comme des extraterrestres par le reste de la province présentement.
Le pire, c'est que la semaine passée, il y avait des reportages qui disaient « Sherbrooke, contaminé par la fièvre des séries du Canadien. » Voyons, Stan, allez-vous toutes passer les régions une après l'autre?
Tout le monde l'est
depuis le départ. Là. C'est pas nouveau.
Vous pouvez même changer de province présentement, puis vous allez voir des rassemblements en Ontario, dans l'Ouest.
On me dit qu'il y a juste à Toronto qu'on n'en fait pas.
Ah, puis fuck Toronto, on va se le dire. Hein? Hey, on s'arrête, on revient, vous êtes à Boulevard.
Conditions s'appliquent.
Bonjour, vous cherchez un véhicule en particulier?
Je regarde pour un véhicule sport avec beaucoup d'espace intérieur, surtout pour les passagers.
Ah, facile! Kia K4 Hatchback.
OK, mais la polyvalence pour la ville, plein de technologies.
Vous pourriez essayer le Kia Seltos?
Puis si je veux aller un peu plus gros, comme en vue d'une famille?
Peut-être un Kia Sportage.
Hey, vous avez vraiment une Kia pour tout?
Pas mal, oui.
Trouvez la Kia qui vous convient et profitez d'offres exceptionnelles à la location et au financement ce printemps. Visitez kia.ca pour les détails.
Kia, du mouvement vient l'inspiration.
Gravel dans le retour. Un freaking Gravel, le retour de Boulevard 102.1.
102.1. Hey, merci d'être des nôtres à Boulevard. C'est Gravel dans le retour. On a encore plein de choses à jaser dans les prochaines minutes. Peut-être vous rappeler que Marceau va se charger de votre avant-match ce soir. Parce que de 18h à 19h, c'est une conversation avec un gars qui en a vu de toutes les couleurs dans les dernières semaines. Il a fait la manchette pour diverses raisons. Un certain Renaud Lavoie de TVA Sport qui va être l'invité de Yann Marceau à compter de 18h. On savait que ça s'en venait. On se demandait juste quand ça allait arriver. C'est la première fois depuis les années 70 que d'une année à l'autre, on est moins nombreux au Québec que l'année précédente.
On est en décroissance.
On le savait que ça s'en venait pour un paquet de raisons, mais la population du Québec a diminué en 2025 du jamais vu depuis le début des années 70. Les nouveaux chiffres de l'Institut de la statistique du Québec qui nous disent sur plus de 9 millions de Québécois. C'est pas un gros changement, c'est pas une grosse baisse. C'est une baisse de 0,1%.
Ça veut dire qu'il nous manque combien de monde?
Mais c'est le début. C'est 9600 personnes de moins.
Comme un petit village qui aurait disparu.
Oui, exactement. Exactement. Pour un paquet de facteurs, mais avant d'aller dans le détail, Audrey nous a fait signe. Je pense qu'il y a des problèmes de circulation.
Oui, sur le pont de Lille, entre autres, là, direction est, au milieu du tablier, la voie est bloquée. La circulation se fait en alternance en ce moment. Il y a une panne. Les policiers sont sur place. Sinon, c'est encore super au ralenti sur la capitale est entre Henri IV et Robert Bourassa. Charest est entre Henri IV et Robert Bourassa, difficile également. Henri IV sud, la capitale au pont, ça n'a pas bougé. Si vous êtes sur Duplessis sud, Charest au pont, sont super difficiles et il y a encore beaucoup, beaucoup de troubles sur la 20 direction ouest entre la route du président Kennedy et Taniata. Autre chose, n'hésitez pas au 88-971-1021.
C'est fini pour un bout, là, la population qui augmente naturellement au Québec. Les décès sont plus nombreux que les naissances, une tendance qui est amorcée en 2024 puis qui continue de grandir. Il y a 78 200 bébés qui sont nés au Québec en 2025. C'est une hausse de 1 % par rapport à 2024, mais la hausse de décès est plus forte. C'est une hausse des décès de 2,1 %. On a stoppé l'immigration aussi, ça paraît, là. Tout ce qui s'appelle permis temporaire et ainsi de suite, le résultat, c'est que le portrait de 2025, le nombre d'immigrants temporaires a chuté, écoute, c'est énorme, de 51 400 en un an, surtout parmi les titulaires de permis de travail ou d'études, mais toutes catégories confondues, là, immigration permanente, temporaire, émigration, le solde migratoire est devenu pratiquement nul. C'est un mince gain de 450 personnes.
Tu ajoutes à ça que la première année des baby boomers ont 80 ans cette année.
Oui, c'est vrai.
Fait que, tu sais, la fameuse pyramide inversée avait été provoquée par le baby boom de l'après-deuxième guerre mondiale. Ça s'est échelonné de 1946 à 1965. Fait que là, tu sais, avant ça, ils ont fait partie de la population active, des retraités. Là, ils tombent dans l'autre portion de l'âge d'or qui va faire que, sans dire qu'il va y avoir une accélération, ça va paraître beaucoup plus dans les prochaines années.
Le Québec perd également plus qu'on en gagne si on compare les transferts avec le reste du Canada. C'est peut-être tous des médecins qui sont partis en Ontario,
mais
je ne sais pas.
Il y avait des chiffres qui disaient qu'il y avait plusieurs cerveaux qui avaient quitté, mais je pense que c'est pour le pays au complet, par exemple.
Écoute, en dedans d'un an, on a doublé le nombre de départs à partir du Québec pour le rest of Canada. On est passé de 3400 à 7600 personnes. C'est énorme. Il n'y a rien de positif dans ces chiffres-là. Ou presque rien. Parce qu'on a une meilleure espérance de vie au Québec que dans le reste du Canada et qu'aux États-Unis. C'est le seul point positif. Parce que pour le reste, c'est rien que du négatif. La population québécoise ne rajeunit pas. C'est quoi l'âge moyen au Québec, d'après vous autres?
Hey, c'est une bonne question. On est-tu dans
la
cinquantaine?
Ouais, moi aussi, j'ai l'impression qu'on est en haut de la cinquantaine. On parle de population vieillissante sans arrêt.
On est plus bas que ça. L'âge moyen vient de franchir le seuil des 43 ans pour atteindre 43,1 ans en 2025.
On est plus vieux que la moyenne.
Oui, exact. Notre espérance de vie, je vous disais que... Oui, ouf, boum, ouais.
Il a répondu oui sans écouter, puis là, ça vient de le frapper.
Non, c'est parce que je voulais partager les autres chiffres, puis ça a comme fessé plus tard. Ouais. Ça a pris un petit temps de...
C'est même quand on est vieux, hein?
Oui, c'est ça qui arrive. Ouais. Les réflexes sont plus lents. Ouais. L'espérance de vie au Québec, 82,7 ans
plus
l'an
haut
dernier.
Plus haut que la moyenne
canadienne, hein? Oui, c'est 84,4 ans pour les femmes, 81,1 ans pour les hommes. C'est un peu mieux que le reste du Canada, mais beaucoup mieux que les États-Unis. C'est 3,6 ans de plus qu'aux États-Unis, donc où l'espérance de vie est un peu moins élevée. Véro, on a parlé de la visite de Donald Trump en Chine tantôt, puis je pense que tu as des choses à nous raconter sur ce qu'on va appeler la diplomatie culinaire.
Oui, j'avais jamais entendu parler de ça, alors que pourtant c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais qui n'a pas été nommé avant le tournant des années 2000. Puis c'est à force de regarder justement des reportages sur la visite de Trump en Chine, parce que la diplomatie culinaire, il y a deux volets là-dedans. Ça peut être une manière de mettre en valeur la gastronomie d'un pays, puis de se retrouver à être représenté partout dans le monde. Ça a été le cas de tout ce qui est bouffe thaïlandaise. Il y a une couple d'années, on s'arrangeait pour faire des événements où les plats étaient servis, fait qu'il y avait un certain rayonnement, puis ça s'est multiplié à travers le monde.
Mais est-ce que je me trompe ou la diplomatie culinaire, on la pratique même à très petite échelle? Dans la mesure où quand tu vas recevoir chez toi, mettons, tu vas t'organiser. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui,
c'est la même chose?
Non, parce que la diplomatie culinaire, c'est politique. Okay. Il y a quelque chose de politique qui est lié à ça. Puis
tu peux passer des messages.
Tu peux passer des messages quand tu reçois des hauts dirigeants. Ça, c'est l'autre manière de la pratiquer. Puis dans l'histoire, souvent, quand on voulait faire des partenariats, on allait s'arranger pour mettre sur le menu des éléments qui provenaient de l'autre culture pour dire... regarder l'espèce de respect. Et d'un autre côté, quand on voulait passer des messages à sens unique, bien à ce moment-là, on y allait vraiment plus dans la tradition. Puis pourquoi on parlait de ça à cause du banquet de tôt ce matin, qui était tard le soir hier, c'est qu'on ne savait pas si ça allait être un menu entièrement chinois, parce qu'ils ont 4 grandes cuisines selon les régions en Chine. Fait que là, c'est celle de Pékin qui aurait pris le dessus. Ou si on allait y intégrer des éléments américains pour vouloir parler un petit peu des échanges parce qu'entre autres, sur le plan de la culture et de l'agriculture, il y a des tensions entre les États-Unis et la Chine. Puis c'est pour ça que les observateurs attendaient avec impatience de savoir qu'est-ce qui allait constituer le menu en question. Fait que le traditionnel canard de Pékin, le canard rôti, était servi, mais on a aussi servi de la côte de bœuf, qui est typiquement américaine comme plat, et c'est un des repas préférés de Donald Trump, de manger son bœuf saignant. Fait que c'est pour ça que les observateurs disaient « Ah, c'est peut-être une manière de dire, parce qu'ils ont des problèmes avec l'importation du bœuf des États-Unis vers la Chine. »
T'apprends qu'il y a un leader qui est allergique à quelque chose ou qui aime vraiment pas un plat, puis tu décides de le faire mal paraître pas, en public. Tu sais, mettons, Donald Trump, ça l'écœure de manger de la pieuvre, tu y en donnes une crue, vivante, tu l'installes dans son plat, puis tu le regardes se débattre avec la bouffe. J'imagine qu'on va pas jusque
Non, on ne va pas jusque-là. Puis de ce qu'on comprend, c'est que ça a beaucoup été les pays asiatiques au fil du temps qui se sont servis de ça. Puis depuis ce temps-là, un peu partout dans le monde, la plupart des pays ont carrément un petit département de diplomatie culinaire ou de diplomatie gastronomique, comme vous voulez. On appelle aussi ça de la gastrodiplomatie. Gastro, c'est jamais
on dirait le nom d'une maladie.
Ouais, c'est ça. Ça sonne moins cute.
C'est pas super.
La diplomatie alimentaire ou encore la diplomatie de la fourchette, on peut s'en servir pour mettre en valeur des produits qu'on veut justement exporter, entre autres. Mais j'ai trouvé ça franchement intéressant. Ouais. Puis moi, s'il y a un département au Canada, je lève ma main. Là.
Pour faire ça, oui?
Absolument.
Mais je trouve que ça doit être un job vraiment le fun.
Bien, mais c'est parce que t'as pas le choix. Tu veux pas faire de faux pas. C'est quand même particulier quand ça touche justement le décorum qui vient avec ça.
Tu parles de la job peut-être que tu aurais rêvé de faire. Avez-vous pogné le texte de Richard Martineau sur le meilleur conseil qu'on peut donner à nos enfants de faire une job qu'on aime?
Oui, j'ai entendu Yannick en parler.
Il a parlé de sa première job à lui parce qu'il rêvait d'être critique de cinéma.
Il est devenu stalker.
Il dit, moi, j'ai été chanceux, mais j'ai fait ma chance un petit peu. C'est qu'à un moment donné, il a appris l'existence d'un magazine qui allait ouvrir, qui allait parler de cinéma. Et il a appelé pour savoir c'était qui avait ce magazine-là puis à qui qu'il fallait qu'il parle. Et on lui a donné le nom du responsable, un certain René Homierois, que Richard Martineau a harcelé pendant 3 semaines à appeler sa secrétaire puis à vouloir
c'est
parler.
Ça. Il a plus harcelé la secrétaire, pratiquement.
Mais après ça, il a eu sa rencontre avec René Homierois puis il a dit, écoute, je suis prêt à faire ce que tu veux, à pas être payé. Je vais passer le balai dans ton bureau. Il dit, René Homierois m'a regardé comme si j'étais complètement cinglé puis il m'a donné ma première job à vie. Puis il disait, c'est important de dire à nos jeunes, travaillez dans quelque chose que vous aimez, devenez passionné parce que ça va être le tiers de votre vie, aussi bien d'aimer la job que vous faites. Je trouvais l'histoire fascinante, puis je savais pas que Richard Martineau avait eu un contact ou avec René Homierois. Mais lui, c'était ça qu'il rêvait d'être. T'sais. Il rêvait d'être un critique de cinéma. Il dit, la meilleure job que tu peux avoir, c'est d'être payé pour aller voir des films.
Mettons, si on considère pas, parce qu'on n'a pas le choix. Je comprends que faire une job qu'on aime, c'est une chose, mais l'autre affaire, c'est qu'il faut vivre dans la vie aussi. Fait qu'il vient un temps où, quand tu vas choisir ta profession, tu vas t'assurer de... T'sais, si, mettons, ton rêve, c'est d'allumer des lampadaires à l'huile, c'est plate, t'en vivras pas, ça fonctionnera pas. Mais si on enlève le salaire, que vos conditions, tout, quel job vous auriez fait pour le reste de votre vie?
On vient d'une région où on nous apprend l'inverse, on nous inculque l'inverse. Moi, j'ai déjà vu des parents s'ostiner avec des kids qui voulaient aller à l'université. Puis le parent a dit « Non, 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 tu vas pas à l'université, tu vas donner ton CV à l'Alcan. » Puis tu vas travailler à l'Alcan parce que tu vas faire un Christi de bon salaire. Tu vas pouvoir te payer un chalet. Moi, c'est arrivé à des amis. Là. Demain matin, le salaire compte pas. Je fais quel job? Moi, être plate en tabarnouche, mais je suis pas mal sûr que je fais le job que je suis supposé de faire.
De la radio?
Ouais. Je l'ai fait bénévole pendant des années déjà, pendant que j'étais ado. Tu sais, fait que j'étais un peu sans surprise. Là, j'étais un peu plate comme la pluie. La seule autre job que je me verrais faire, là, c'est probablement travailler dans un magasin de musique. Là, les vinyles sont à la mode. Là. Je pourrais être le vieux grincheux d'un magasin de vinyle qui vend du rock progressif ou je sais pas quoi. Là.
Je pense qu'il faudrait que ça touche la bouffe. T'sais, j'ai aucun talent de cuisine. Fait que peut-être critique culinaire ou peut-être je mais faudrait
tant que tu la prépares pas, on
c'est
devrait
ça. Être faudrait que je la consomme d'une façon ou d'une autre. ça tremperait définitivement autour de l'univers de la nourriture, je pense.
Toi, ça aurait été l'alliage du cinéma et de la musique. Je vous en parle mais souvent donc que j'aime les deux domaines, mais moi j'aurais aimé ça choisir des chansons pour des films.
OK. Je pense pas le réalisateur qui fait ça.
Ben oui, mais tu sais il peut avoir des gens autour de lui qui font ça là. Okay. Mais tu sais, d'arriver à trouver la bonne chanson, pour la bonne scène, pour donner la bonne impression. Là, on va vous gosser encore avec Vitrerie Joyale. J'aurais aimé ça y penser, moi, à Mr. Jones.
Ouais, je l'ai fini hier en passant.
Tu l'avais pas fini encore?
C'est magistral.
Tu as pleuré comme un bébé?
Un petit peu. Ouais, c'est dans les, grandes séries qu'on a eues au Québec. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Vous en allez au Centre Vidéotron?
Absolument.
OK. J'entends
ma poutine.
Moi aussi, j'en rêve. Là.
Puis, avez-vous la même stratégie pour samedi soir?
Non.
Non?
Okay. Non, j'ai aucune idée de ce que je fais de ma fin de semaine encore.
Non, c'est ça. Je me suis laissé libre choix. Ah. C'est-à-dire que si, mettons, ce soir, c'est hyper le fun puis que j'ai envie, dernière minute, puis il y a des place d'y retourner, ce sera peut-être ça, mais étant donné que la game est plus tard, j'ai plus une impression que ça va être, on va se préparer un lunch à la maison.
Amusez-vous, dites bonjour à tout le monde, puis on vous rappelle que dans les prochaines secondes, c'est Renaud Lavoie qui va être l'invité de Yann Marceau. On vous rappelle également qu'on va être là demain, nous autres, vendredi, 14h, en formation complète. Mm-hmm. On va commencer à mettre la table pour la fin de semaine. On va s'amuser avec les meilleurs covers, vos covers préférés de l'histoire de la musique. Audrey?
Il y a encore des gros problèmes de circulation. Le Capital-Est entre Henri IV et Robert Bourassa. L'entrée des ponts direction sud, c'est un bordel. Patience, courage, je sais pas, là, mais Henri IV sud à partir de la capitale jusqu'au pont, c'est complètement jam-pack. Charret au pont pour ce qui est de Duplessis sud et Lavin direction ouest, c'est encore congestionné entre la route du président Kennedy et chemin des îles.
Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenons soin des autres et du petit.